pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur. Je vous retrouve pour ce mois d'octobre pour une balade dans Toulouse. Et notre guide aujourd'hui, c'est Géraud Delbès, professeur d'occitan de l'Institut d'études occitanes de la Haute-Garonne. Il est aussi chroniqueur à France Bleu Occitanie. Mais aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, nous recevons l'auteur qu'il est. Je le reçois, Arieux. Bonjour Géraud.
Bonjour Gisèle et bonjour à tous.
Vous avez choisi la Talbert que l'on vient d'écouter avec le Biroulette pour commencer cet entretien. Pourquoi ce choix ?
Oh ben la Talbert parce que j'aime beaucoup leur travail, à la fois travail de collectage qu'ils ont déjà commencé il y a une bonne trentaine d'années. Et après, ils font également beaucoup de choses pour les enfants et c'est le cas de cet album Loup Biroulette.
Oui.
C'est intergénérationnel. Au-delà du collectage, il y a vraiment un devoir de transmission que fait de manière remarquable l'association, parce que c'est aussi une association, la Talbert, et c'est pour cette raison que j'ai choisi ce titre.
Oui, en tout cas, c'est très joli, merci beaucoup. Comment vous en êtes venu à l'écriture, vous, professeur? Est-ce que c'est votre travail qui vous y a aidé? Est-ce que c'est l'histoire
D'abord, j'ai fait un premier livre qui s'appelle « Modoc, Modici », qui est paru en fin août 2020, il y a un petit peu plus de 3 ans.
Oui.
Et à l'époque, « Modoc, Modici », ça rappelle une chronique anciennement sur France Bleu, sur la radio France Bleu, c'était « Les Modocs ».
Oui.
C'est vrai que j'avais eu l'idée à ce moment-là, au bout de 10 ans, je voulais attendre 10 ans pour faire un livre qui allait regrouper différentes chroniques, de faire une sélection en réalité. Je m'étais dit, bon, je vais voir, je vais faire ça et puis je proposerai ça à un éditeur du coin, un éditeur associatif. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est l'ancien directeur de France Bleu Occitanie, M. Pierre Galibert, qui m'a contacté. Il m'a dit, écoute, Géraud, au cours d'un déjeuner d'affaires, on va dire, j'ai mangé avec le directeur des éditions Priva, Dominique Ozel. On souhaite travailler ensemble. Et très rapidement, on s'est dit, pouvoir faire un livre, ça sera certainement autour des chroniques occitanes que tu fais. J'ai rencontré Dominique Ozel, c'était en novembre 2019. Et en gros, j'ai eu jusqu'à, allez, on va dire, février-mars 2020, juste avant le Covid. Mais je savais pas qu'il allait avoir le Covid, mais déjà, j'étais vraiment honoré parce que bah, c'est Priva. Priva, c'est un éditeur toulousain, historique. C'est pas un éditeur local ou régional parce que bah, c'est un éditeur national, Priva, mais qui est basé en région.
Et très ancienne.
Et très ancien. Il y a beaucoup de livres qui ont été édités autour de l'Occitan ou sur l'Occitan. Et ça s'est opéré comme ça. Et puis, comme le livre s'est plutôt bien marché, continue de se vendre encore, eh bien, bah, on s'est rencontré à nouveau avec Dominique Ozel, directeur des éditions Priva, au début de l'année dernière. Bah, il m'a dit ça serait bien de faire autre chose. Et voilà.
Nous allons justement ouvrir ce livre. Mais d'abord, je voudrais savoir pourquoi professeur d'occitan, langue certes de chez nous, mais elle est en perdition. Pourquoi vous avez choisi d'enseigner l'occitan ?
Je ne sais pas si j'ai choisi. Je vais vous raconter une anecdote. C'est que en 2004, c'était à l'université du Mirail. C'était fin août, début septembre. J'avais travaillé tout l'été, mais il fallait que je revienne pour passer une seconde session d'examen, un examen de rattrapage en fait, pour terminer ma licence d'occitan. Et juste avant l'épreuve, je rencontre l'ancien professeur de l'Institut d'études occitanes à cette époque-là. J'étais très surpris de le voir lui aussi, et il m'annonce que bah, il veut partir de l'IO 31, il a un autre projet professionnel, et ils me disent que ça t'intéresserait. Ah ben, oui, ça m'intéresserait, d'autant plus que je ne vais pas surprendre les auditeurs en disant que dans les associations, il n'y a pas beaucoup de CDI et il n'y a pas beaucoup de temps plein. Et là, c'est le cas. C'était le cas.
Oui.
Et c'est toujours le cas. C'est vrai que ce devoir de transmission de la langue, j'avais pensé à l'enseignement au début de mes études en licence d'occitan, mais voilà, dans l'éducation nationale ou en calendrier, les adultes, peut-être que j'avais pensé, pas directement, mais quand on vous propose ce genre d'opportunité, vous la saisissez de suite.
Tout à fait, tout à fait. Nous allons ouvrir votre ouvrage et il s'appelle Métrodoc, Métro d'ici. Il est paru en avril de cette année 2023 chez Priva Édition, vous venez de le préciser aussi. Toulouse, nous l'avons eu ici à Radio Galaxie, présenté au fil de la Garonne, des poésies. Et là, c'est Toulouse et son histoire au fil des stations, stations du métro, au bord du révolutionnaire véhicule automatique léger. Et ça, c'est quelque chose de, en tout cas pour l'époque, quand ils l'ont mis en route, c'était très innovant. Pour cette balade toponymique, historique, culturelle, bref, c'est ce que l'on ne voit pas forcément que vous nous montrez dans ce livre. Est-ce que vous aimez l'histoire de notre région ?
Ah, bien sûr, l'histoire en général, mais l'histoire de notre région, bien entendu, même de la Grande Occitanie, c'est-à-dire de l'ensemble de l'espace linguistique occitan, parce qu'on partage une langue ensemble sur différents territoires. Je trouve ça passionnant de savoir qu'à parfois plusieurs centaines de kilomètres, on retrouve des noms de communes qui se ressemblent beaucoup, des noms de lieux, des noms qui font référence à la végétation, à la flore. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire.
Vous avez dû faire des recherches assez poussées pour écrire ce livre parce que vous allez dans les détails. Ça a dû être de belles rencontres pour vous, j'imagine.
Ben, ça a été un voyage. non pas métro, bien que bon, le métro, je le prends tous les jours pour raisons professionnelles, mais c'était un voyage à travers le temps, à travers l'espace. Il faut préciser aussi que ce livre est édité en partenariat avec Tisséo, donc la société des transports publics de Toulouse, donc Tisséo Collectivité et Tisséo Ingénierie, parce que justement, cette année, nous fêtons les 30 ans de la ligne A du métro de Toulouse.
Ah oui.
Ce n'est pas par hasard si le livre Métrodoc, Métro d'ici est sorti au printemps dernier. C'est un véritable voyage. Finalement, j'invite beaucoup les lecteurs. Alors, les lecteurs, ça peut être aussi bien des Toulousains, des gens de la région, mais aussi des touristes, à se poser un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on habite, à Muret ou qu'on habite en Volvestre, beaucoup de gens vont travailler à Toulouse et partent très tôt le matin et reviennent parfois très tard le soir.
C'est vrai.
Il faut faire vite fait, il faut faire toujours plus. On est vraiment dans une société où on est poussé à aller plus vite, à en faire toujours plus. Et là, ce livre, en fait, il invite le lecteur à se poser un peu, à analyser, je prends le métro à telle station, je descends à telle station, pourquoi ce nom, etc. Dans chaque station du métro, il y a une œuvre d'art qui a été réalisée par un artiste, une artiste ou voire plusieurs artistes. Mais on ne prend pas toujours le temps d'observer, c'est bien dommage. Donc ce livre, il met aussi en valeur le travail des artistes.
Mmh. Je suppose, comme vous voyagez par le métro, est-ce que vous voyez Toulouse sous un autre angle après le livre ?
Oui, bien sûr, parce que comme je suis né à Toulouse et je suis né en 1980, j'ai toujours vécu à Toulouse, j'ai toujours constaté l'évolution, et je constate l'évolution quotidienne de cette ville, mais en prenant le métro, je prends un exemple très précis, au nord-est de la ville, entre les quartiers, entre les stations, même Jolimont et Roseraie, on a un quartier qui est en train de sortir de terre, qui s'appelle Guillaumet. Oui, ça on le voit au quotidien, mais après avoir terminé le livre, également. J'ai vraiment constaté plein de choses sur l'évolution aussi, notamment de quartiers que je connais aussi, parce que j'ai eu de la famille à la Rainerie, au Mirail. C'est en préparant ce livre que je me suis aperçu que ce quartier avait beaucoup changé.
Ligne A, 18 stations, et 20 pour la ligne B, ça fait beaucoup de stations. Est-ce que vous les avez toutes parcourues pour écrire le livre ?
Oui. Eh oui,
j'imagine.
Ouais. Alors tout simplement, je vais donner une raison qui est bête, mais depuis 2009, il faut le préciser, les usagers du métro Tissot, que ce soit pour la ligne A ou B, peuvent entendre des annonces, des stations. Les stations sont annoncées en français et en occitan depuis septembre 2009. Tout simplement, rien que pour vérifier la prononciation en occitan des stations, oui, j'ai parcouru les deux lignes. Parce qu'il y a eu d'abord un premier lancement en 2009 avec une voix qui était la voix de Nicole Becvor, qui est professeure d'occitan dans l'éducation nationale, qui est bretonne d'origine, je le précise, mais qui parle très très bien occitan. Et après, il y a eu une autre voix qui a été mise en place en 2011-2012 par c'est la très belle voix de Muriel Babi-Castel qui enseigne l'occitan dans l'Ariège, qui est chanteuse lyrique. Mm-hmm. Et par exemple, pour le quartier Patedois, dans la première version, c'était Pédauque. Dans la deuxième version, donc avec la voix de Muriel Balbi-Castel, qui n'y est pour rien, elle qui a fait les choix des traductions, c'est devenu Patodauque.
Ça se colle davantage au français.
Ça se colle davantage au français, mais si on reprend...
Ou le contraire.
Ou le contraire. C'est vrai que c'est très intéressant parce que, y compris justement en milieu rural, dans un territoire rural, j'ai déjà trouvé des noms attestés où il y avait Pédauque. Pédauque, c'est vraiment... pied-doigt, pour le coup. C'est comme plusieurs routes se rejoignent.
Oui.
Et dans le livre de Peyre Goudouli, donc c'est un poète toulousain du XVIIe siècle qui a écrit Les Rambellés de Mundi, ça veut dire le bouquet toulousain, il utilise justement l'appellation Pédauque et pas Patodauque. Donc rien que pour ça, j'ai parcouru les deux lignes pour bien vérifier, de ne pas me tromper.
À chaque station, il y a une grande œuvre en grand format, vous les avez décrites et on peut vraiment s'en inspirer. Est-ce que pour les décrire, vous vous êtes servi de votre propre ressenti ou de ce que vous avez entendu dire par les passagers ou les deux ?
Les deux, honnêtement les deux. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a des stations que j'aime énormément. Une qui se trouve sur la ligne B, pas très loin de mon lieu de travail, pas très loin du quartier Esquirol, c'est la station des Carmes qui est vraiment pour moi... quand on prend l'escalator et qu'on descend, on est dans un univers très large. C'est un hall très très large, noir, assez sombre. On a l'impression un petit peu d'être dans l'espace, mais c'est par contre très apaisant. J'adore ça, vraiment, j'adore la station des Carmes, je la trouve magnifique pour cet aspect. De même pour la station Rainerie. La station Rainerie, donc c'est une œuvre qui a été réalisée par Takis. C'est un mur d'eau qui descend jusqu'au niveau des quais. Et vous avez deux bassins accueillant des vis torsadées et colorées, dont le mouvement s'anime au passage de l'eau.
Et, oui.
Et elle est magnifique, cette station de la Rainerie. C'est deux exemples, mais sur ligne B, celle des Carmes, qui est une œuvre d'un architecte, un artiste corse qui s'appelle Jean-Paul Marqueschi, qui est peintre, qui est sculpteur. J'aime beaucoup cette œuvre. Et puis sur la ligne A, donc la station Rainerie.
Mmh. Est-ce que c'était des endroits idéaux pour les artistes, justement, en grand format et de laisser aller leur imagination ?
Lieu idéaux, je ne sais pas, parce que parfois, ces œuvres, on ne les remarque absolument pas, si on ne fait pas attention.
C'est justement à travers le livre que j'ai pu les voir.
Ah ouais.
Parce que j'avoue que j'ai pris le métro, je n'ai jamais vu les...
Et c'est pour ça, c'est ce que je vous débute de...
Pardon,
mais... Non, mais c'est normal, mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est ce que je disais en début d'émission, c'est que vraiment ce livre, cet ouvrage, c'est pour inviter le lecteur et donc l'utilisateur du métro, le touriste, le Toulousain ou quelqu'un qui est du Volvestre, oui, qui est de la région, à s'arrêter un peu, à se dire mais oui, mais tous les jours je passe devant, mais je fais pas attention. Donc c'est vraiment, j'invite ça en fait. Et mais surtout, moi qui prends le métro dans le quartier, à la station Esquirol tous les jours, bah, je me suis dit, mais tiens, l'œuvre d'art de la station Esquirol, c'est quoi en fait? Et j'y faisais pas attention parce
d'accord,
que mécaniquement, je monte les escaliers très rapidement.
Oui.
Le soir, je suis extrêmement pressé, mais j'ai envie de rentrer, donc on fait pas attention.
Est-ce que c'est voulu de votre part de ne pas avoir mis à chaque station, et pourquoi vous n'avez pas mis la carte même minimale du quartier que vous allez décrire? C'est voulu, c'est...
Non, même pas. C'est pas forcément voulu.
Vous n'y avez même pas pensé?
Non, voilà, on va dire. Mais je vois que l'éditeur non plus, parce que je remercie vraiment les éditions privées, parce qu'on a vraiment,
oui,
travaillé ensemble, on s'est posé beaucoup de questions. Enfin, moi, je m'en suis posé, mais eux aussi. Non, pas forcément, parce que on estime que les gens qui prennent le métro ont une idée plus ou moins du réseau des deux,
d'accord,
lignes. Mais c'est vrai, et que en plus de ça, en prenant le métro, on a des cartes assez facilement. Mais effectivement, on aurait pu rajouter une carte, ça sera peut-être...
Parce
pour,
que vous parlez vraiment de tous les quartiers,
ouais,
c'est magnifique, c'est bien fait, je vous félicite.
Merci, merci Gisèle.
Vous parlez de la République Consulare de Toulouse en 1189. Est-ce que c'était les prémices des francs-maçons, cette congrégation, si on peut appeler ça une congrégation?
Oh, je ne sais pas si on,
non,
peut faire un lien, parce qu'en 1189, c'est ce qui correspond, c'est ce qui... On pourrait parler de révolution finalement,
oui,
parce qu'à Toulouse à l'époque, le pouvoir était concentré, c'était les comtes Raymond de Toulouse.
Tout à fait.
Et il y avait le château des comtes Raymond qui se trouvait, on parlait du château Narbonnais parce qu'il se situait la porte narbonnaise.
Oui.
Aujourd'hui, à la place de ce château, vous avez le tribunal.
Mm-hmm.
Le pouvoir était concentré là. Il y avait la population qui, avant 1189, depuis déjà quelques années, n'était pas très très contente, n'était pas représentée, surtout n'était pas entendue. Et ça a débouché finalement par un soulèvement assez important. Et il a été signé une charte, c'était quand même assez innovant pour l'époque. Par exemple, quelqu'un qui venait du Volvestre, s'il arrivait à Toulouse, s'il était rentré dans Toulouse, donc il faut imaginer qu'à l'époque, évidemment, toute la ville était fortifiée. Donc s'il rentrait, par exemple, au sud de la ville, il passait une porte, il devenait automatiquement citoyen toulousain.
Ah d'accord.
Donc ça...
Ça, c'était génial, par contre.
C'est quand même pas mal. Et ensuite, il y avait au niveau de la démocratie, c'est pas, évidemment, hein, on est en 1189, c'est pas comme aujourd'hui, mais enfin, il y avait des élections assez régulièrement. Et c'est ce qui a préfiguré finalement les capitouls, qui avaient un collège,
oui,
de représentants de la ville, mais aussi, et ça c'est important, et j'en parle dans le livre pour la station Capitole, c'est la création, ce qu'on appelait la commune, hein, c'est-à-dire,
oui,
la maison commune, qui se trouvait donc exactement derrière le Capitole, qui est... À l'époque, soyons bien d'accord, en 1189, le Capitole n'existe pas.
Et oui.
En revanche, il y avait la maison commune. Cette maison commune se trouvait à la place du donjon que vous avez aujourd'hui, qui est l'Office de tourisme de Toulouse.
D'accord. Patrimoine fort ancien, on vient juste d'en évoquer un petit peu, extrêmement riche d'ailleurs. Est-ce que c'est le fait que Toulouse soit au milieu de la vraie Occitanie, carrefour des cultures et des envahisseurs aussi?
Oui, bien sûr, mais dans ce livre, moi, je valorise tous les patrimoines,
oui,
c'est-à-dire pas uniquement le patrimoine ancien.
Oui.
C'est vrai qu'il y a des quartiers magnifiques, je ne vais pas tout détailler, mais je me suis réintéressé finalement aussi à des lieux cachés,
oui,
qui ne sont pas forcément dans le centre-ville.
C'est
je ne voulais
vrai.
Pas juste parler des hôtels particuliers, alors, des fois qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs, si on
n'est, oui,
pas très, si on ne les veut pas le nez. Mais aussi, je voulais parler de l'histoire de l'architecture avec Georges Canilis au Mirail, qui pour moi réalisait, je parle vraiment en termes d'architecture,
oui,
des immeubles magnifiques qui étaient très très bien pensés. Alors après, l'évolution, ce qui s'est passé, c'est autre chose. Mais j'ai eu justement de la famille qui vivait à la Rainerie. Et donc ces immeubles, je les connais très très bien. Et les immeubles étaient traversants, c'est-à-dire il y avait de la lumière tout le temps. C'était orienté en fait ouest-est et pas nord-sud.
Oui.
Et tout avait été pensé pour que les immeubles soient reliés ensemble. Ils n'étaient pas séparés.
Oui.
Il y avait des dalles qui n'existent plus depuis à peu près une vingtaine d'années. Je veux parler aussi dans ce livre d'un jardin qui se trouve justement au Mirail, qui est magnifique. C'est un jardin, bon, j'invite tout le monde à aller le voir, à se rendre jusqu'au métro, à la stationnerie. Vous avez beaucoup d'arbres et notamment des palmiers. On a du mal à imaginer qu'au Mirail, il y a des palmiers. Et pourtant, c'est aussi bien valoriser le patrimoine du centre-ville, mais aussi, c'est vrai que Toulouse, effectivement, pour répondre vraiment précisément à votre question, se trouve au carrefour. On est entre les Pyrénées, le Massif central, l'océan Atlantique, la Méditerranée. Oui, on retrouve une synthèse de ces différentes... les influences, finalement.
Oui. Tout le monde, en fait, arrivait en France, sauf le nord de la France. D'alors, tout le monde arrivait par l'Occitanie.
Eh oui, absolument. Absolument. Donc, oui, c'est vrai que je donne...
Bordeaux, l'Espagne, la Méditerranée.
Et voilà. Voilà, voilà.
L'Italie.
Absolument.
Vous nous racontez l'histoire de Toulouse, la petite histoire également, les détails, les ruelles, les anciens sites, les remparts. Et tout ça, avec votre livre, moi, ça me fait penser que vous êtes un grand ambassadeur touristique de Toulouse, ou pas ?
Ça me fait rire. Je sais pas. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on s'est posé la question avec l'éditeur. On voulait pas faire un guide touristique non plus.
Non,
attention.
C'est pas un guide.
Donc, ouais. C'est pour ça que ce livre, il s'adresse aux touristes, mais il s'adresse aussi aux gens de la région qui veulent découvrir ou redécouvrir Toulouse.
Voilà, c'est ça.
Mais aussi, je parle des choses qui. Alors, il y a des choses très personnelles. On s'est posé la question, mais moi, j'habite dans le quartier de la Roseraie. Et en mars 2012, il y a un drame qui s'est déroulé pas 150 mètres de là où j'habitais à l'époque. C'était l'établissement aux Aratora, à l'époque, où il y a eu un drame, puisque Mohamed Mera, je ne vais pas revenir en détail sur... Mais vous voyez, on s'est posé la question, est-ce qu'il faut en parler, est-ce qu'il faut... Moi, je pensais que, oui, dans la Roseraie, je parle... Roseraie, pourquoi ?
Ça fait partie des événements et de l'histoire
et voilà,
de la
et
ville.
Voilà, ça en fait partie, donc je voulais... La Roseraie, je ne voulais pas dire juste, ah oui, c'est des noms de fleurs, parce que finalement, ça vient de là, il n'y avait pas une Roseraie. C'est juste, on a créé... à l'époque, quand le quartier s'est créé dans les années 30-40, c'était uniquement... Alors, il y a la rue des Pervenches, il y a la rue... Et l'allée centrale s'appelait Avenue de la Roseraie. C'est pour ça que le quartier s'appelait la Roseraie. Alors, c'est très joli, c'est très bucolique. Mais je voulais quand même parler aussi de cette histoire.
Mais oui, je la comprends tout à fait. Après, vous dévoilez aussi des coutumes anciennes, comme par exemple Negogusis.
Oui.
Vous n'avez pas eu peur de choquer les lecteurs parce que ça, Negogusis, ça parle de lui-même.
Ouais, c'est vrai. Pareil, moi, je suis pas historien.
Oui.
Ce sont des hypothèses. Mais je m'appuie aussi sur les différents travaux, par exemple de Pierre Sali, qui avait écrit en 1989 aux éditions Milan « Histoire des noms de rues de Toulouse » en deux volumes. C'est très épais, très fourni. Il y a beaucoup de suppositions. Mais Negogus, exactement, donc c'est une rue qui part du quartier des Arènes et qui va en direction de l'Ardenne. Alors Negogus, c'est en occitan de Toulouse, parce qu'ici en Volvestre, on dit plutôt les Cannes.
Oui, on dit les deux.
Il y a les deux. Il y a l'influence de la grosse ville. Mais on dit aussi les Cannes. Et donc, Negogu, ça veut dire la rue où on... à l'époque, ce n'était pas une rue, mais l'endroit où on noie les chiens.
Oui.
Peut-être pas. Moi, j'ai une autre hypothèse. Je pense que c'était plutôt un endroit qui était très humide, finalement. C'est plutôt un endroit où les chiens venaient pour boire. Voilà.
D'accord.
Alors ça, c'est quand même... C'est autre chose. Ça passe mieux.
Oui, tout à fait, tout à fait. Toulouse est riche de personnages illustres et vous en nommez quelques-uns. On en a parlé aussi. Là aussi, pour trouver ces richesses, vous en avez trouvé d'inconnus ou pas ?
D'inconnus toujours, justement, en parcourant les travaux de Jules Chaland, de Pierre Sali, en reparcourant Toulouse, moi tout simplement, j'ai envie de dire, même presque comme touriste. Mais après aussi, c'était, j'aime bien les allées Jean Jaurès, j'ai parlé beaucoup de Jean Jaurès. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est par rapport à mon métier d'enseignant d'occitan pour adultes. Jean Jaurès, il y a maintenant plus de 100 ans, c'est quelqu'un qui avait compris avant tout le monde l'avantage du bilinguisme français-occitan. C'est quelqu'un qui parlait très bien occitan, c'est quelqu'un qui s'adressait lors de ses meetings en occitan, il parlait aux ouvriers, aux mineurs de Carmaux, il leur a parlé en occitan. C'est quelqu'un qui disait les auteurs occitans de l'époque, Frédéric Mistral notamment, l'abbé Bessou, il connaissait très bien les troubadours, c'était même un critique littéraire parfois,
oui.
il a écrit beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, Jean Jaurès, et notamment quand il a été en Amérique du Sud, il a été également au Portugal, et au Portugal, quand il était à Lisbonne, il avait l'impression d'être dans les rues de Toulouse ou d'Albi, parce que pour lui, les sonorités du portugais lui rappelaient celles de l'occitan languedocien. Oui, Jean Jaurès, il a une posture nationale, parisienne, j'ai envie de dire, mais aussi, c'est d'abord et avant tout, il est arnais, il est occitan,
oui.
Et il parlait notre langue.
Oui. Page 105, vous parlez des mesures anciennes comme les arpents. Vous les connaissiez ou ça a été une découverte pour vous ?
Découverte totale, absolument, absolument totale. Ouais, non, il y a des choses en faisant ce livre que je connaissais absolument pas. Non, je, sur ça, non. Par contre, à travers ce livre, pour la station Bagatelle, par exemple, la station Bagatelle, il y avait énormément de choses à raconter concernant l'architecture, la création de la cité, des immeubles. Mais aussi, j'ai voulu mettre en avant une rue, un personnage qui est Georges Vore. Georges Vore, il nous a quittés il y a déjà presque 15 ans, je crois qu'il est mort en 2009. Georges Vore, les gens le connaissaient davantage sous le nom de Piroulette.
Eh oui.
Et Piroulette, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi Bagatelle ? Parce que il a vécu là-bas. Lui, il était né dans le faubourg, puisqu'à l'époque, on parlait du faubourg Saint-Cyprien.
Oui, oui.
Il a travaillé à la dépêche. Je crois qu'il était à la retraite assez tôt, au début des années 80. Mais c'était un excellent comédien, Fazio des Farseggiados, et il a interprété plusieurs fois la Catinou. Il a fait beaucoup de théâtre, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et il a vécu dans le quartier Bagatelle, et c'est pour ça qu'il y a une rue qui porte son nom. Et j'ai vraiment voulu rendre hommage à ce personnage. Alors, vous voyez, au début, l'éditeur me dit ah, quand même, sur Georges Vore, ça fait beaucoup de. C'est quand même très long. Et je fais moi je veux garder parce que c'est un personnage que certains ont connu, mais que tout le monde ne connaît pas.
Oui.
Et voilà, il avait réalisé, par exemple, la fameuse partie de rugby, le rugby à Toulouse. Il avait interprété aussi les fameuses histoires, les Pesca et les Débénères.
Oui.
Quoi. C'était quelqu'un d'extraordinaire et les gens rigolaient énormément.
Mmh. Jérôme, nous allons faire une pause musicale pour nous poser un petit peu. On va s'arrêter à la station qui arrive là. Et vous avez choisi Platane à Queiroz Montaños. Pourquoi ?
Mais parce que je connais un petit peu une des chanteuses, Mathilde Lalle, qui habite dans le quartier des Pradettes à Toulouse, pas très loin du Mirail, et qui a plusieurs formations polyphoniques. Mathilde Lalle, elle était étudiante de Pascal Caumont au CRR, le Conservatoire à rayonnement régional, où il y a un département musique et chant traditionnel occitan. Et à Queiroz Montaños, cette version proposée par Platane est assez originale et change de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en tout cas à Toulouse, je parle vraiment à Toulouse, au niveau des jeunes et au niveau, alors que ce soit dans le sport, dans la culture, il y a un intérêt de plus en plus grandissant pour le secante. Alors, secante ou à Queiroz Montaños, c'est la même histoire. Hein. Que ce soit dans le sport, à travers le TFC, le Toulouse Football Club, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters, il y a même des groupes de supporters qui, j'étais en contact avec un, qui a proposé une nouvelle version du secante, secante que cante d'ailleurs, au
et
passage.
Il y en a,
mais une très très belle version. Et puis il y a des jeunes comme ça qui aussi veulent se réapproprier ce répertoire et Platane, écoutez cette version à Queiroz Montaños, moi je l'aime beaucoup.
A Queiroz Montaños que tan altos son, men pasión de vez y más amus un son. Se sabí las veces un las reencontra, pasirí la gueto, chens podem negar. A Queiroz Montaños que tan altos son, me pasión de veces, más amor un son. Aserila egeto, shems podem nega. Akeros montanos, que tan alto su. Vem pashem, vem pashem de beze, mas amus un su. Se sabila las beze, unas ven contra. Aserila egeto, shems podem.
Radio préférée et je suis en compagnie de Giraud Delbès qui nous propose son ouvrage Métro Doc, Métro d'ici. C'est paru en avril 2023 chez Priva Édition. Giraud, vous nous dites pas mal de choses en occitan. La voix du métro, vous nous l'avez dit, c'est Muriel Badby. Tous ces quartiers dont vous nous parlez, quelle est l'importance et l'impact que le métro y a apporté ?
Pour les quartiers, ben, je pense que ça a permis de relier les territoires de la ville, parce qu'auparavant, les gens, par exemple, qui étaient au Mirail n'allaient pas forcément en centre-ville. Les gens qui, j'en parle dans le livre pour la station Rennerie, il y a eu un festival important dans les années 80, qui a duré jusqu'en 2005, ça s'appelle le Festival Racine. Festival Racine, grâce au métro, ça a permis justement aux gens habitant dans les quartiers du centre-ville ou carrément à l'opposé de la ville, de venir à la Rennerie. Ils n'auraient pas forcément eu l'idée de venir à un festival, et ça a permis de relier les gens entre eux réellement. Oui. Et moi, je pense que vraiment, c'est assez clair.
Mmh. Toulouse, c'est un riche pôle universitaire, santé, arts, lettres, culture, aviation, agricole, et j'en oublie parce qu'il y en a plein dans toutes vos pages, et ce, d'ailleurs, depuis les temps les plus anciens. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de délocalisation pour pouvoir alléger un petit peu cette ville Est-ce qu'elle n'est pas trop lourde, justement, de toutes ces facultés, universités?
Ben, tout à fait.
Pour l'étudiant, quoi.
Vous avez absolument raison. Pour moi, on aurait besoin de... En fait, Toulouse, ça ressemble à l'échelle régionale. C'est un petit peu le Paris de la région.
Tout à fait.
C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, en termes de qualité de vie, puisque je répète, je suis né à Toulouse il y a 43 ans. Je ne suis jamais parti d'ici. Je vois très, très bien l'évolution de cette grosse ville, d'aquello bilache, comme on dit en occitan. Et justement, il y aurait un besoin de déconcentrer tout ça et de mettre les universités ou certains pôles économiques autour, parce que en termes de qualité de vie, on le remarque tous les matins, les gens qui habitent en Volvestre et qui prennent leur voiture ou qui prennent même le train pour aller travailler, à Toulouse, c'est beaucoup, beaucoup de bouchons, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de pollution. Oui, pour moi, clairement, là, vous prêchez un convaincu. Moi, si je suis né à Toulouse, c'est parce que mes parents qui étaient avéronnais sont arrivés à Toulouse au début des années 70.
Pour le travail.
Ben, essentiellement, c'est pour le travail, bien entendu. Nous, on est vraiment une région, je parle de l'ex-région Midi-Pyrénées, on est vraiment une région à part en France parce que, à part Toulouse, on n'a pas de ville très importante. Après, on a Montauban, qui est la ville la plus importante. Après, on retrouve Albi, Tarbes, mais on a des petites villes quand même.
Oui.
Et ce qui n'est pas le cas, quand vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, il y a Bordeaux, mais vous avez d'autres villes importantes dans cette région, que ce soit Bayonne, par exemple, que ce soit Agen, que ce soit... Vous avez des villes assez importantes. Nous, c'est quand même Toulouse, et les géographes parlent du désert régional, et c'est vrai quand même.
Tout à fait. Tous les quartiers sont attractifs ou y en a-t-il de un peu plus mal lotis? Et si oui, est-ce que ça dépend de leur situation par rapport justement à l'histoire ancienne et peut-être aussi du moyen de transport, comme le métro?
Bah, tout est lié, absolument. Des quartiers mal lotis, il y en a, bien entendu.
Oui.
Mais là aussi, on constate une évolution. Par exemple, le quartier Bordeaux-Rouge, donc, qui est au nord de la ville, Bordeaux-Rouge Sud, parce qu'il y a Bordeaux-Rouge au nord, qui est plus récent, ça a été construit il y a 20 ans. Même première construction, c'est un petit peu plus que 20 ans. Ça reste agréable, mais ça s'est quand même dégradé. Alors, dégradé en termes aussi d'habitat, parfois.
Oui.
C'est vraiment, comment dire en occitan, c'est de la cagnarde, c'est-à-dire il y a des... C'est pas très bien fait, quoi.
Oui.
C'est du travail mal fait. Par contre, c'est assez bien pensé. Vous avez un très beau parc, un très beau jardin qui s'appelle la Maurine. Et plus récemment, ces 10 dernières années, on a la suite de Bordeaux-Rouge Nord, qui est vraiment là où se situe aujourd'hui la station de métro.
Oui.
Bien là, ça rappelle peut-être des choses qui ont été réalisées il y a déjà 50 ans, voire plus. Donc ça rappelle un petit peu le Mirail avec des immeubles plus hauts. Et assez serré, finalement. Donc là, oui, ça pose question, parce que déjà, aujourd'hui, on voit qu'il y a des problèmes par rapport au trafic de drogue, notamment, trafic de stupéfiants. Mmh. En revanche, si on prend des quartiers Le Mirail, eh bien là, il y a un programme de réhabilitation qui ne plaît pas à tout le monde, il faut le savoir, parce que c'est vrai que Georges Candis avait bien pensé les choses à l'époque, il y a déjà presque 60 ans. Et les nouveaux immeubles construits sont plus petits, moins serrés, mais en termes d'habitat, de qualité de l'habitat, c'est pas toujours très bien fait là aussi.
D'accord. Toulouse, point stratégique, comme on vient de le dire, comme une capitale de notre sud, on va dire. Carrefour aussi entre deux mers, on en parlait tout à l'heure. Bien atteinte par les guerres, malheureusement, avec un très fort impact avec les religions, l'époque de la peste, des inondations. Et en lisant votre livre, j'ai eu l'impression que tous ces faits l'ont rendue plus forte. C'est vrai ou pas?
Oui, bien sûr, je le crois vraiment, parce que même encore, si on prend l'histoire assez récente, je prends ce qui s'est déroulé malheureusement le 21 septembre 2001 avec AZF, je crois que ça a rendu Toulouse plus forte. C'est un exemple, mais oui, effectivement, je suis assez d'accord. Ouais.
D'accord. L'Occitan est-il présent dans les rues ou pas trop, ou ça revient?
Eh bien, au risque de vous surprendre, oui, moi je trouve que quand même il est présent. Ça m'arrive de manger le midi, pas tous les jours quand même, je ne vais pas au restaurant tous les... Déjà parce que je travaille le midi, je fais des cours d'Occitan justement, mais dans différentes brasseries ou restaurants, et en général c'est avec des gens que j'aime beaucoup, des amis, on parle en Occitan, et je vois que ça suscite de l'intérêt sur la table du voisin, et des fois des gens qui vous répondent en Occitan.
D'accord.
C'est assez intéressant.
Ah oui.
Et finalement, oui, on a des lieux... identifiée par exemple à Toulouse, c'est assez magnifique comme endroit. C'est sous une arche du pont Saint-Pierre. Vous avez un restaurant qui existe depuis à peu près 4 ans, qui s'appelle La Toupine. C'est un lieu où on peut pratiquer l'occitan, le cuistot par l'occitan, la carte est en occitan. Régulièrement, chaque semaine, il y a des concerts, il y a du chant polyphonique, il y a différentes choses, il y a des expositions. À Toulouse, je crois que l'occitan peut-être est en train de revenir, c'est un peu paradoxal, par les villes et les grosses villes.
D'accord.
Et à Toulouse, c'est quelque chose qu'on remarque. J'ai parlé du TFC tout à l'heure. Oui, le secanto, c'est l'hymne du club. Un moment important pour tous les supporters, pour tous les gens qui se rendent au stadium pour voir un match du Toulouse Football Club. C'était encore en février dernier. J'étais dans la navette. Je prenais le transport en commun pour aller au stadium, pour aller voir un match. C'était un TFC Rodez. Et dans la navette, alors on était un petit peu en retard, il y avait la circulation, c'était un dimanche soir. Et à côté de moi, j'avais trois jeunes, dont un qui avait le drapeau occitan sur l'épaule. Ils disaient, on va être en retard, on va rater le secanto. Et c'était un drame. C'était vraiment un drame. Non, vous voyez, il y a vraiment un intérêt, je trouve, y compris de la part des jeunes, pour cette culture et pour cette langue.
Mm-hmm. La voix de Muriel Badby, tout à l'heure, on en a parlé. Est-ce que c'était une volonté des occitanistes toulousains ou est-ce que c'était les dirigeants qui ont vraiment voulu la mettre en place?
Pour reprendre l'histoire, en septembre 2009 ont été mises en place ces annonces en occitan dans le métro. Pour la petite anecdote, j'en profite pour glisser, c'est aussi ce qui m'a poussé à faire ce livre. J'avais travaillé à cette époque, donc durant l'été 2009, sur la recherche toponymique et patronymique des noms de ces stations. J'ai pas été le seul. Je citerai aussi Jean-Paul Becvor, le directeur à l'époque de l'Institut d'études occitanes de l'UO 31 qui a travaillé qui a fait cette recherche. Vincent Rivière également pour le Centre de ressources occitan et méridionales. Et puis aussi, il y a eu Maurice Andrieux, comédien, journaliste à France 3. En fait, c'est ce qui a permis de mettre en place ces annonces bilingues. Il faut savoir qu'à l'époque, ces annonces ont été mises en place à la rentrée, mais il n'y a pas eu vraiment d'annonce, il n'y a pas eu d'information, il y a eu un manque de communication, d'accompagnement, de pédagogie. Ce qui fait que les gens qui ont entendu ça, se sont dit « mais que Jaco ?» Enfin, qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas trop compris. Et alors, des gens qui se disaient « mais c'est quoi? C'est de l'espagnol, c'est du portugais, on a entendu du japonais ?» Enfin, vraiment, c'est peut-être positif, justement, ça a suscité pas mal d'interrogations. Ce qui n'allait pas très très bien ensemble, c'est que la voix en français, c'était une voix synthétique.
Oui.
Et la voix en occitan donc de Nicole Becvor était très très bonne, une prononciation très très bonne, mais c'était deux voix...
C'est vrai, totalement à l'opposé.
Voilà. Ça, c'était pas bien pensé peut-être. Enfin, je pense qu'il a fallu la même voix, celle de Nicole Becvor, en français et en occitan. Et puis à l'époque, c'est vrai que la presse régionale vraiment a réalisé des articles contre ces annonces. Il s'est créé un groupe Facebook, c'était assez violent quand même, pour que l'Occitane ferme sa gueule dans le métro de Toulouse. Oui. C'était le nom de ce groupe Facebook, c'était très 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 violent.
C'est vrai.
Il a fallu travailler avec Tisséo, il a fallu travailler aussi avec les gens qui n'étaient pas d'accord ou qui n'avaient pas compris, et faire un petit peu de pédagogie. Et ce qui a été proposé, c'était de réaliser un nouvel enregistrement et d'avoir la même voix. Et Muriel Badby-Castel a été choisie et proposée aussi par l'association Convergence Occitane. Et aujourd'hui...
C'est très agréable.
C'est très agréable, c'est plus harmonieux. On a la même voix en français et en occitan.
Oui. Pourquoi, aux trois quarts de votre livre, pourquoi vous dites que les États et les institutions veulent voir disparaître l'occitan? Pourtant, c'est une richesse plurielle, alors qu'on peut promouvoir la culture et promouvoir beaucoup de choses à travers l'occitan. Et en plus, on promouvoit le bien vivre ensemble, mais là, on ne veut pas. C'est contradictoire, je ne m'y suis pas retrouvée là-dedans.
C'est parce que je pense qu'au niveau local, régional, il y a des acteurs politiques, il peut y avoir des opposants, mais quand même plutôt favorables à cette langue, à cette culture. Par contre, au niveau... on va dire, de l'État et au niveau législatif, disons clairement les choses, c'est là où c'est quand même assez, assez compliqué. Mm. On va prendre un exemple de l'actualité très très récent. L'occitan, c'est pas seulement une langue régionale, moi je dis souvent que c'est une langue interrégionale, voire même une langue européenne, parce que pas très loin du Volvestre, à peu près, allez, un peu plus d'une heure de route d'ici, on a le Val d'Aran. Le Val d'Aran, c'est une petite vallée pyrénéenne qui se trouve en Espagne. Là-bas, on parle l'aranais, c'est du gascon. Ben, l'aranais, c'est une langue officielle, non seulement dans le Val d'Aran, mais aussi dans toute la généralité des Catalognes, puisque le Val d'Aran appartient donc à la Catalogne, à la région catalane, la généralité des Catalognes. Mais depuis quelques semaines, c'est tout récent, il faut savoir que l'Occitan a fait son entrée au Congrès, au Parlement en Espagne.
Ah oui.
Pourquoi ? Parce que ça a été un petit peu une négociation pour pouvoir former un gouvernement en Espagne. On sait que c'est assez compliqué depuis pas mal d'années, quelques temps. Et donc, c'était une négociation aussi avec des partis politiques autonomistes des différentes régions d'Espagne. Ben, au Parlement, donc à Madrid, c'est il est possible qu'un député s'exprime en basque, en catalan, en galicien bien entendu, et aussi en occitan. Pourquoi en occitan ? Parce que justement, je crois qu'il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un député du Val d'Aran, mais il a le droit de s'exprimer en occitan. Évidemment, il y a tous les systèmes de traduction qui sont mis en place.
Quelle intelligence !
Voilà. Ça serait une chose totalement inimaginable en France, à Paris, à l'Assemblée nationale. Pour ça, moi, je pense qu'il y a vraiment une volonté, pour résumer, il y a une volonté, une bonne volonté, je pense, au niveau local, y compris au niveau institutionnel. Par contre, au niveau législatif, ça reste assez compliqué.
Ça coince. J'adore la fin de votre livre, mais je ne veux pas en parler ici, parce que si on la dévoile, on dévoile beaucoup de choses. Je propose aux auditeurs de la découvrir par eux-mêmes. Où est-ce qu'on trouve votre livre ? Chez tous les bons libraires, on peut le commander ?
Oui, bien sûr. Il a l'avantage d'être édité par Privat. Ce livre, vous pouvez le trouver chez tous les bons libraires, les petits libraires, mais je pense, je vais prendre... Vous avez à Muret une très bonne librairie à demi-mot. Vous trouverez cet ouvrage. Mais vous pouvez le trouver également, c'est aussi un avantage. Je ne vais pas faire de publicité pour eux, mais parfois dans certains gros supermarchés, il faut savoir que le livre peut se trouver également. C'est l'avantage d'avoir un éditeur comme Privat.
Et puis on peut le commander chez son libraire que l'on connaît.
Mais absolument.
Il va le commander.
Et c'est bien meilleur d'ailleurs.
Tout à fait. Un livre que l'on peut lire de bout en bout, comme je l'ai fait, mais on peut aussi le faire au gré de notre envie.
Absolument.
On peut prendre une page, on le ferme, on revient à la page, le chapitre d'avant, le chapitre d'après, ligne A, ligne B, n'importe quelle station. Et c'est très, très agréable. Géraud, avez-vous ressenti cet esprit de convivialité à la rencontre des gens que vous avez dû rencontrer ou pas ?
Ouais, j'ai fait appel à mes souvenirs, beaucoup. non, mais c'est vrai, il y a vraiment, je ne vais pas dire que j'ai une bonne mémoire, mais un peu quand même.
Heureusement.
Pour l'instant, en tout cas, tout va bien. On verra dans quelques années. Si, après, je me suis beaucoup nourri de différentes lectures, je me suis rendu sur place parfois, Oui, la convivialité, elle y est forcément, parce qu'il y a des quartiers que j'ai toujours aimés, que j'aime toujours, d'autres que je découvre, que je redécouvre. Cet esprit, il y est totalement.
Oui. Qu'avez-vous ressenti à la fin de l'écriture de ce beau livre ? Parce que pour moi, c'est un beau livre.
Merci. un soulagement, parce que c'est pas évident. J'ai eu à peu près un an, pas plus, pour faire ce livre. Alors, ça peut paraître long, mais bon, comme j'ai beaucoup des semaines assez chargées, j'ai travaillé beaucoup le soir, la nuit. J'étais content parce que il y avait un objectif, c'est que cette année, comme je le disais au début de l'émission, c'est les 30 ans de la ligne A du métro. J'étais très content aussi que Jean-Michel Latte, qui est maire adjoint de Toulouse, qui est en charge des transports, qui est en charge de la culture et la langue occitane, accepte d'écrire la préface.
Elle est belle.
Et elle est en français et en occitan. Et comme Jean-Michel Latte, c'est à la fois Monsieur Tisséo et Monsieur Occitan, à la mairie de Toulouse, ça me paraissait tout à fait naturel. J'étais vraiment très, très satisfait, très content. Beaucoup de bonheur, beaucoup de fatigue aussi quand même, je ne vais pas vous mentir. Mais très content. Et puis c'est aussi un livre qui parle de l'avenir, parce qu'on ne va pas tout dire, mais il faut évoquer l'avenir. Et l'avenir, c'est la troisième ligne de métro. J'aborde un petit peu ce sujet. C'est un livre d'histoire, mais c'est aussi un livre qui parle du présent et de l'avenir.
Et du passé. C'est vous qui avez choisi la couverture ou c'est l'éditeur ?
C'est l'éditeur, mais alors c'est vrai.
Elle est jolie, moi je la trouve bien.
Et au début, il y avait une autre couverture qui est. C'est assez parlant, donc oui. Déjà, bon, y a le titre, Métro Dog, Métro d'ici, et puis on voit un livre avec un ticket de métro qui fait office de marque-page,
oui.
Et où c'est écrit Toulouse et son histoire au fil des stations. Et puis on voit des personnes qui prennent le métro, qui rentrent dans le livre, des personnes de différentes générations, oui. Des femmes et des hommes. Et derrière, on reconnaît le Capitole, on voit le donjon avec donc l'office de tourisme. Moi, je l'aime beaucoup, je la trouve très, très parlante, cette couverture.
Et très sobre à la fois.
Exactement, vraiment magnifique. Oui. Je l'aime beaucoup, vraiment, sincèrement.
Géraud, il va falloir qu'on descende du métro,
oui.
Du métro d'Oc et du métro d'ici.
Estacio Benento.
C'est paru chez Priva Édition au printemps 2023. Nous sommes au terminus, obligés de descendre. Merci beaucoup de m'avoir confié cette lecture où j'ai appris et compris beaucoup de mon pays, il faut que je l'avoue aussi. Je recommande encore une fois cette lecture à nos auditeurs. Et je peux même dire, puisque là on est au mois d'octobre, je peux même dire qu'il faut que le Père Noël n'oublie pas ce livre pour Noël.
Ah.
Ça serait très bien parce que c'est un très beau cadeau, je trouve.
Eh bien, on espère que le Père Noël écoute Radio Galaxie.
C'est un livre qui s'adresse à nos auditeurs.
Absolument.
Il s'adresse aussi aux Toulousains, mais il s'adresse aussi à ceux qui viennent s'y installer, en tout cas à Toulouse et sa région, bien sûr. Merci Géraud pour ce voyage parce que c'était un voyage agréable, un voyage qui m'a fait découvrir que les stations étaient des œuvres d'art alors que je ne l'ai jamais remarqué. Merci de votre confiance encore une fois et on va se quitter avec le groupe Aredai qui chante Kumenjes. Pourquoi ce choix ? Et à vous le mot de la fin.
Déjà parce que j'aime beaucoup ce groupe qui existe depuis 11 ans, si je ne dis pas de bêtises, Aredai, avec Wilfried Abou et Mathieu Barès. Ce sont deux jeunes qui ont beaucoup, beaucoup de talent. J'aime bien ce groupe et j'espère qu'ils vont continuer encore à se produire et d'aller de s'exporter au-delà du Comminges. Pourquoi pas faire des concerts en Volvestre et ailleurs dans toute la Grande Occitanie. C'est un groupe que j'aime beaucoup, sincèrement.
Mmh. Merci beaucoup de nous avoir présenté Métro d'Oc et Métro d'ici.
Avec plaisir. Et puis moi, j'ai une pensée pour cet ami qui m'a suggéré de faire ce livre quand même au cours d'un repas. Qui m'avait dit tu devrais faire comme le travail de Laurent Deutsch qui avait réalisé Métronome. Et bien là c'est un petit peu la même chose. Alors j'ai pas la prétention du tout d'être Laurent Deutsch, je m'en éloigne beaucoup même. Je la remercie parce que c'est grâce à elle que ce livre a pu se faire également.
Allez, on écoute Kumenjes. Adieu Girao,
adieu Chat et allez Léo.
Un villaggio, une stanche, tintene la voce des cantai, les enta danza, ubi truque, talentur de des violonaire.
Quante cansus, un tambouri, lupen en un trousseau de bouche, pente clavot, claru clari, dret de taille de pierre rouge.
Comenges de muret tu baldara, comenges de luchon de sembetra, comenges visigoto a quita, et ton parla que iusita.
Res d'Aurignac o a Gargas, comença a clatxio història.
De princineres o d'escolzats, guardes escrimes en memòria.
Als espanyols que has ajudat, a resistance mataràs.
Na comences, na desbrembat, et des de juny a marsolàs.
Comences en muret tu valdarà, comences de l'uixum de Saint Bertrand. Comences visigot o a vita, et ton parla que iuxità.
Cada printemps, a mes de març, per ajustar a la gimuno.
Passos intensos e jarbas, e gel la piccola garuno.
E mes d'aús, de sanguien, leu era crave perdigai.
Penne que heis, e buscase, amagoset se nuntisai.
Comenges de muret tu valdarà, comenges de ruchung de sembetrà. Comenges visigoto a quità, e ton parla que iuxità.
We'll be right back. baldarà. Comences del xun de sembetra, comences bisigotu a quità, e ton parla che iuzzità.
E vide calzo tala sequer, usce de fumo de val cabrer.
Impeteram tala hardera, uio pistascia la cremaiero.
En de barra de bacaner, le uio tartasa guajus.
A jugarum, u palumero, tabre spagliadis pescajus.
Comences de muretto valdaram, comences de luchum de semetram. Comences visigotu a quità, e ton parla che iuzzità.
Dano del lac, brusso sopados, memu io beni sale spugo.
Caia o magi, punta incantado, i credes cum ma vita antigo.
Senta o antin, de pete giust, sorti che io espi in printens.
Un peregrin, cubres de flus, e cade prao e sen gaudens. Come in ges de muretto valdarà, come in ges de nusciun de semetrà. Come in ges visigotu a chità, e ton parla che iuzzità.
Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur. Mmh.